du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 717 du Coq à l'âne, en direct de Briançon, hein, comme une fois par mois, avec évidemment Philippe Stockley qui est là.
Bonjour.
Salut Philippe, Rémi Chouissa, salut Rémi.
Salut.
Jean-Paul Grolier, salut Jean-Paul.
Et bonjour.
Et notre invité Simon Libérel. Alors, on te présente comme coordinateur de l'Altitude Jazz Festival ou autre chose?
Oui, coordinateur de l'association Les Décablés même.
L'association Les Décablés, très bien. Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant, mais comme d'habitude, la parole est à Philippe Stockley.
Bon, alors après une longue insistance de mes deux associés, j'ai dû céder devant la pression. Une pression discrète bien sûr, mais néanmoins pesante. J'ai dû donc m'imposer une longue séance d'auto-persuasion. Je me dois d'être ouvert, je me dois d'être à l'écoute, je dois être tolérant. Jean-Paul et Rémi, je les aime bien, donc il faut que je les écoute. Parce que dans le fond, tout ça ressemble quand même à ma philosophie de base. Je me fous complètement de ce que peuvent penser certaines personnes, mais pour certaines autres personnes, pour ceux qui restent, je les écoute et je tiens compte de ce qu'ils disent. Donc, j'ai écouté Jean-Paul et Rémi, ici présent.
Allez, donc.
Et je me suis donc résigné à inviter le président du Festival de Jazz de Briançon, l'Altitude Jazz Festival, Simon Libérel, ici présent. Non, j'ai pas dit résigné. C'est pas ce que je voulais dire. Je l'ai pas dit. Excusez-moi, Jean-Paul et Rémi et Simon. Je recommence. Donc, après concertation avec mes amis Jean-Paul et Rémi, j'ai accepté de recevoir Simon Libérel. Non, j'ai pas voulu dire accepter, excusez-moi. Je suis désolé, mais c'est dur. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Donc, après les chaudes recommandations de Jean-Paul et de Rémi, j'ai trouvé excellente leur idée d'inviter Simon Libérel, président du Festival de Jazz de Briançon. Ouf, mais bon. Je vais quand même dans cet édito marquer le terrain, dire au monde entier que ma naissance, c'est le rock and roll. Quand sera terminé cet édito, quand les discussions vont partir sur le jazz, je vais donc commencer à m'ennuyer, disant oui de la tête à Jean-Paul et Rémi, rêvassant à la joue gauche appuyée contre ma main gauche, à ce qui est pour moi la seule et unique musique, le rock'n'roll. Quand je les vois arriver, les jazzeux, avec leurs applaudissements au milieu du morceau, pour saluer le solo sans fin du saxophoniste ou du pianiste, et je parle pas de l'insupportable trompette, pardon Jean-Paul.
ça c'est un clin d'œil à Malouf, ça.
C'est parti.
Je les vois arriver, les jazzeux, avec leurs morceaux qui durent des quarts d'heure entiers assis dans leur fauteuil de velours rouge, avant d'aller boire une petite coupe à l'entracte. Ma vie, moi, c'est le rock and roll. Vous l'aurez compris, primaire et bruyant, je dirais même odorant. Si, odorant. Je ne vous parlerai que du souvenir des odeurs de bière renversées, mélangées à celles des mégots écrasés au concert de Johnny Winter. Et d'autres odeurs, je dirais plus végétales, on va dire du concert de Bob Marley. Je sais pas si vous avez déjà assisté à un concert de reggae. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'un nuage de fumée à un mètre du sol. C'est magnifique. Donc, et si par hasard, je devais arrêter ici mon édito sous la pression de mes collègues musicalement corrects, car je vois déjà des regards noirs se poser sur moi, je vois déjà notre invité regarder mes collègues d'un œil interrogateur qui dirait « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Si je devais être forcé à me taire tout de suite, si je devais subir une dictature, même sanitaire, même soviétique, eh bien, je ne vous dirais qu'une chose. « It's only rock and roll, but I like it. » Ce morceau des Stones qui date de 1974 est comme un hymne, un chant de guerre pour dire à tous ceux qui nous observent avec dédain, en se bouchant les oreilles et en se pinçant le nez, les ciseaux à la main pour nous couper nos tignasses, que c'est juste du rock'n'roll et que j'aime ça. Oui, on aime un genre musical mineur, mais on vous dit qu'il n'y a pas de genre musical mineur, que chacun doit aller chercher le bonheur là où il le trouve.
Radioscopie, Jacques Chancel.
Tout a commencé avec le tépas de mon grand frère. D'abord Johnny Hallyday, Le Diable me pardonne.
Le Diable me pardonne, ma chance m'abandonne.
Johnny, vite oublié dès que la fiancée de mon grand frère a eu la bonne idée de lui offrir pour ses 20 ans le 33 tours historique de Creedence Clearwater Revival Cosmos Factory. Écoutez et écoutez des dizaines de fois le saphir du Tepa, ça rappelle encore. Sans parler du 45 tours de Chuck Berry, Carole. Et dans un autre style, le paranoïde des Black Sabbath, celui-là je m'étais payé. Et puis il y a eu mon premier 33 tours. J'avais 16 ans. Une des pochettes les plus célèbres de l'histoire du rock'n'roll, Sticky Fingers, avec la braguette fermeture éclair, rappelez-vous, sortie en 1971. Pour ma part, je n'ai pu me l'offrir qu'en 74. J'avais même fait un exposé au lycée, en cours d'anglais sur la chanson Sister Morphine. Et aujourd'hui, du haut de mes 60 ans largement passés, bien après mon exposé, à une époque où Mick Jagger va verser 79 ans, je revendique encore et toujours mon appartenance au Long Live Rock'n'Roll. Je dirais même rock'n'roll jusqu'au bout. Je dirais même prostate rock. Non, excusez-moi, je m'égare. Quelques souvenirs encore pour finir. Je t'ai vu soupirer, Rémi. J'ai transpiré, toussé dans les nuages de Gauloise au concert de Rory Gallagher au Palais des Sports. À Lille, en novembre 1981, regardez les poils de mes bras se dresser au Parc des Princes en 90, au concert des Stones, justement. Et je me suis régalé d'entendre mes oreilles siffler pendant 3 jours après un concert de Bruce Springsteen à Montpellier en 2012. Et je me souviendrai longtemps d'avoir dansé sur les fauteuils de l'Olympia sur le Roxy Stone des Stray Cats. Je ne vous parle pas des décalites de bière de base correspondant à tous ces événements. Le rock'n'roll, 3 accords de blues et un rythme que Monsieur Berry, Chuck, aurait trouvé dans un train. Alors merci, merci Chuck, merci à la SNCF américaine. Et pour en finir en beauté avant de parler de jazz, juste l'intro guitare de Johnny B. Goode.
Et voilà.
Et voilà.
Toute une histoire, hein. C'est bien pour lancer une discussion sur le jazz.
Sur le jazz, on peut s'en inquiéter quand même. Hein.
Ça nous rajeunit pas. Hein.
L'animal qui est à ma droite, là, il va bien se défendre.
Tu as quel âge, Simon?
Et je vais sur mes 40 ans.
40, ouais, ah, donc, fou. Ouais. Les années 60, 70.
J'y suis venu, mais
à côté.
On n'a pas vécu la même
oui,
époque.
On n'a pas vécu la même époque. Bon, alors. On en parle de ce jazz?
Bah, il va falloir, donc je me glisse vers mes deux collègues Rémi et Jean-Paul, qui sont plus spécialisés dans la matière, et surtout vers Simon, oui, donc qui voilà. Organise tous les ans, enfin presque tous les ans, puisque l'année dernière ça n'avait pas lieu.
On l'a organisé quand même, mais on ne l'a pas fait.
On l'a pas fait. C'est ce qu'on appelle être coordinateur.
Et tiens, ça va être une première question. Comment as-tu justement appréhendé la période de Covid avec les restrictions sanitaires et la mise au banc de la culture et de la culture musicale, justement? Ça a dû être compliqué pour toi, comme pour tous ceux qui tournent autour de la musique.
Hein. Et ouais. Ouais, j'ai pas préparé le truc, faut qu'on parle de Covid aujourd'hui.
Hein. Non, sans parler de Covid, mais seulement non, voilà, avec le retour, avec ce qui s'est passé, comment t'as géré cette période?
Ouais, ben c'est pas facile, je pense que comme tous les collègues, on a construit, on a déconstruit, on a reconstruit, pour en annuler une bonne partie. Je pense que ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on a réussi à, pour cette édition 2022, là, la 15e édition, on a réussi à rebondir sur des nouveautés, à recréer des choses différentes et à se repositionner un peu sur ce qu'on faisait d'habitude. Ça, c'est quand même...
On s'est réinventé, quoi.
Ouais, voilà. S'il faut sortir un truc positif, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Donc et là, je peux faire une petite parenthèse là-dessus. On a fait donc la 15e édition, on avait tout en plein air, avec une scène autonome. En électricité, avec des vélos et des panneaux solaires. Donc ça, c'est un truc complètement nouveau sur lequel on est allé et qui a vraiment bien fonctionné. On a eu du bol avec la météo et le public était au rendez-vous, vraiment attendait les concerts, donc ça c'est...
Qui pédalait ?
Le public.
C'est génial ça. Ah, ça, je trouve ça génial. C'est vraiment une idée géniale, quoi. Tu pédales pour pouvoir voir ton concert. C'est excellent. C'est excellent. Est-ce que le gouvernement a assuré dans son soutien financier pendant cette période ? Ça, c'est une question aussi que je voulais savoir. Parce que on a souvent critiqué le gouvernement. Mais est-ce qu'il y a eu des aides ? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'aides au niveau de la restauration. Mais est-ce qu'il y en a eu aussi au niveau de la culture ?
Ouais, alors il y en a eu, je pense qu'ils ont injecté aussi beaucoup de sous. Les bémols, c'est qu'il y en a eu pour les grosses structures, ouais. Nous on en fait partie. On a réussi à aller chercher les sous parce que c'est mon métier d'aller chercher les sous, donc on a eu des sous. Par contre, je pense qu'il y a la grande majorité des structures culturelles, c'est des petites assos, ouais. Et elles, par contre, soit elles en ont pas eu, soit partiellement. Alors, il y a une particularité dans la culture, c'est l'intermittence. Il y a beaucoup de gens qui ont été préservés grâce à ça, ça c'est une force. Voilà, mais quand même, globalement, je pense que ça marche pour les grosses structures, mais difficilement pour les petites. Mais nous, on n'a pas été plus impacté que ça. On a eu de l'argent, on a réussi à faire des choses.
D'accord.
Donc okay. De la caisse prévisible pour les petites structures.
Ouais.
Dans les mois qui viennent.
Ouais.
Bon, on vous laisse la parole, Rémi et Jean-Paul, hein, si vous pouvez donc titiller notre invité jazzement parlant.
Déjà, je voulais faire une remarque à Philippe, c'est-à-dire que je descends du même arbre que lui. Hein, le rock'n'roll a bercé toute ma vie. Mais je suis simplement plus ouvert, c'est tout. Lui, il a un peu une réaction poutinesque de dire c'est ma façon de voir et c'est la seule. Et puis voilà. J'écrase le jazz de mon. De, tu sais, quand tu danses le rock, tu as toujours le bout du pied comme ça qui bouge et tu écrases le jazz. Non, toute plaisanterie mise à part, évidemment que je viens du rock'n'roll. Le jazz, j'ai appris un petit peu à le découvrir et puis je suis. Je ne suis pas tout jazz, hein. Il y a dans le jazz des évolutions.
Ben heureusement.
Non, mais c'est non, bien. Mais ce que je veux dire, c'est que...
la différence par rapport à la synthèse que nous a faite Philippe.
C'est lamentable.
Là, on élève un peu le débat. Mais oui, tu as raison.
Oui, oui. Non, on ne va pas rester sectaire toute notre vie.
C'est pas notre genre.
Peut-être c'est son âge qui fait qu'il n'arrive plus à évoluer.
Ben, il fait ce qu'il
mais
veut.
Mais complètement, hein. J'assume. Je continue à assumer. Ouais.
Moi, j'irais même plus loin, je dirais même que si je dis pas de conneries, le rock vient du jazz.
Oui, bien sûr.
Du blues.
Si, moi je suis d'accord. Historiquement parlant.
C'est la continuité de tout ça, quoi.
Oui.
Oui.
Parce que.
Si on a un plus bel exemple avec, par exemple, les Stones. Ils se sont très beaucoup inspirés du blues pour en arriver en
du blues, mais pas du jazz.
Le blues,
quoi.
Il est venu d'où
le jazz,
excuse-moi,
Watts.
C'est quand même la naissance du jazz, le blues. Hein.
Ouais, enfin, j'essaie d'évoquer dans cet édito, c'est le résultat. C'est ce que. Je parlais du concert de Rory Gallagher à Lille en 1981. Il devait faire 3 degrés dans la salle. C'est et vrai. Donnez-moi une équivalence en jazz de ça.
Bah, c'était l'Altitude Jazz Festival. L'altitude. Nous, c'est moins 15 à tous les concerts.
Bien joué.
Alors, le gars qui n'a pas de chance, là. Vraiment, t'as pas de chance.
Peut-être que je vous ai tendu la perche aussi.
Voilà.
À Woodstock, il pleuvait, hein. Bah, oui. Cite-moi un concert de jazz.
À Woodstock,
pluie.
Oui.
Et pourtant, il y avait autre.
Allez-y.
Non, mais. Moi, ma découverte du jazz, c'était en 77 à la Nouvelle-Orléans.
Ouais.
Où j'ai découvert du jazz très joyeux.
Arrête de tourner ta tête et reste la bouche devant le micro. C'est terrible, ça. Hein.
Je voulais te regarder.
Non, c'est pas grave. On te regarde. On te regarde, Jean-Paul.
Voilà, oui. Tu es allé dans Bourbon Street.
Parle-nous un peu, pendant deux secondes, de Preservation Hall. Quand on
ouais, ben, j'étais tout jeune, j'étais étudiant. À l'époque, j'étais étudiant aux États-Unis. Et puis, donc, les années 77, 78... c'était le disco qui montait, les Bee Gees et des trucs comme ça que moi j'écoutais pas. C'est là que j'ai découvert quelqu'un que je vais peut-être vous faire découvrir pendant l'émission,
ouais.
Parce que j'ai choisi une musique que j'ai découvert à cette époque.
Ouais.
Mais j'étais pas du tout disco, j'étais rock et puis on écoutait tout ce qui se passait. Et puis on a été une semaine avec un pote à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est, la musique est joyeuse, le jazz n'est pas ennuyeux comme a voulu le dire Philippe. C'est, et puis moi j'ai apprécié surtout la mise en valeur de certains instruments qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, comme une contrebasse, comme une trompette. Excuse-moi de l'injure, mais voilà,
je
j'ai découvert.
Vous m'en voulez, vous m'en voulez.
Ouais, mais non, c'est là que je te la coupe, Thierry.
C'est un clin d'œil.
Attends, Thierry, Rémi, c'est là que je te la coupe. Parce que moi, tu parles de contrebasse, j'en ai quand même une dans mon salon.
Ah, c'est pas mal ça.
Ah, bah oui.
Mais c'est pour faire joli.
Non, c'est surtout pour pas faire trop de bruit.
Elle s'ouvre par derrière et il y a des bouteilles dedans.
Pas du tout.
C'est un bar.
Je la pratique 30 minutes par jour.
Simon, ton premier contact avec le jazz.
Eh ben, je réfléchissais, ouais. Je pense que c'était à Rouen. J'ai fait mes études à Rouen et entre un concert de Bob Dylan, un concert de Eagles et tout ça, je suis tombé sur des théâtres à Rouen là, sur Philippe Catherine, Laurent Dehors, ces gens-là. Ouais. Je pense que c'est là que je suis arrivé.
C'est là où ça a commencé à naître. Donc tu étais jeune.
Bah ouais, entre 18 et 20.
Ouais, ouais, ok. Bon, et Jean-Paul, toi, le jazz.
Oh ben moi, bon, ça,
voilà, les années 20.
On va faire la référence.
C'est salaud, ça.
Moi, je crois qu'au départ, c'est les premiers disques de la guilde du disque, avec un électrophone qui ressemblait au Tepaz, mais en moins bien. Et donc, c'est la découverte de Gershwin, évidemment, un Américain à Paris, Rhapsody in Blue.
Ah, c'est marrant, parce que ça, c'est exactement ce qui m'a fait tilter aussi.
Bon, mais oui, mais il faut dire qu'on n'avait pas trop de disques, et donc on avait tout celui-là, et on trouvait cette chose intéressante. Et puis en 63, j'ai 18 ans, je fous le camp avec Barney ou mon cousin, que vous connaissez tous, et puis on va voir un gars qui s'appelle Miles Davis. Là, pour les gens qui connaissent un peu en jazz, ça calme vraiment. Miles Davis, qui trouve rien de mieux le lendemain sur la scène du festival de jazz d'Antibes, Jean Lépin, de monter. Alors on voit un gars tout noir dans le noir, c'est le cas de le dire.
En fait, on le voyait pas très bien.
On le voyait pas
de
très
couleur.
Bien. Et sur scène, il y avait une femme superbe qui s'appelait Sarah Vaughan, en pleine forme.
Ah, tu dis Vaughan, toi?
Oui.
Ah, moi, j'ai toujours dit Sarah Vaughan.
Oui, mais voilà.
Enfin, je sais pas. Simon
Les deux marchent.
Les deux marchent.
Il m'est arrivé aussi de le dire. Et puis donc, on voit arriver Miles Davis et ils ont fait un bœuf. C'est-à-dire qu'ils ont improvisé pendant 2, 3, 4 morceaux, je ne me souviens plus. Voilà, ça a fait un choc. Et puis j'ai rencontré aussi un gars qui s'appelait Horace Silver, un pianiste absolument fabuleux. Et puis voilà, ça a commencé.
Et puis tu as fait de la radio.
Et puis j'ai fait pas mal d'émissions de radio de jazz. Oui, c'est vrai. Autant que les émissions de Coq à l'âne.
Ouais. Moi, j'étais vraiment beaucoup aimé. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est du jazz, mais les ladies du jazz. C'est-à-dire, on parlait de Sarah Vaughan, de Ella Fitzgerald ou encore de Dinah Washington. Et j'ai beaucoup aimé ce jazz-là qui, pour moi, quelque chose de beaucoup plus, pour mon oreille musicale, ouais, que quelquefois de jazz un peu compliqué, comme tu l'expliquais tout à l'heure dans ton édito. Quelquefois, il y a des morceaux de jazz qui sont un petit peu trop compliqué, ouais, peut-être pour moi.
Il y a un jazz intello qui est un peu...
Qui m'accroche moins.
Rappelez-vous du free jazz.
Oui,
mais enfin, c'est une époque, voilà.
Oui.
C'est des essais.
Oui, mais voilà. J'ai jamais eu de free rock.
On revient.
Il aurait fallu.
Bah, tu avais excuse-moi, il y a eu quand même ce qu'on a appelé le rock progressif. Progressif. Ah bah, excuse-moi, oui, c'était quelquefois un peu compliqué. Et je reviens sur le titre que tu as choisi tout à l'heure. C'est vrai que c'est un concept quand même. Ouais. Hein. C'est un concept. Hein.
Mais il y a eu aussi le jazz rock.
Le jazz rock, absolument. Ou le rock jazz, comme vous voulez. Je voudrais qu'on revienne sur notre invité.
Le jazz punk, le jazz machin.
De toute façon,
on
a senti très vite qu'il y avait des ponts sans arrêt qui se faisaient. Et heureusement, attends. Voilà.
Quand tu penses que tout est parti du jazz.
C'est ça.
Quand tu penses. Simon, un petit mot sur les Décablés. Tu nous présentes ?
Un petit mot sur les Décablés, ouais. C'est une association qui est née il y a 15 ans, 16 ans maintenant, 2006. Mm-hmm. On avait un projet de festival. Donc à la base, on était deux avec Samuel, deux natifs du coin, là. Et on avait un projet de festival sur Monetier autour des télésièges et tout ça. D'où le câble, les Décablés, c'était un peu le clin d'œil.
C'était le clin d'œil ?
Ouais. Ce projet-là n'a jamais vu le jour, mais là est arrivé Jean-Loup Maillard, qui était à l'Office du Tourisme à l'époque, et qui nous a embarqué tout de suite dans l'Altitude Jazz Festival, l'hiver 2007, et qui nous a tout de suite donné ça la deuxième année en disant « Les jeunes, reprenez le festival, il faut que ça sorte de Briançon, il faut que ça vive, etc. »
C'est un personnage.
C'est un personnage.
Ouais.
s'est reconverti d'ailleurs maintenant dans les huîtres.
Il est là aujourd'hui d'ailleurs, il y va.
Parfait. Voilà, du coup on a jumpé là-dessus, on était assez jeunes, hein, et puis on avait un festival d'art de rue aussi en été, donc on avait les deux, le pendant, et on a fait ça pendant 15 ans. Le festival a grandi, on a grandi avec, moi je suis devenu salarié de la structure, etc. etc. Et puis là, depuis le 1er juin 2020, du coup, on a récupéré les missions de musique actuelle de la MJC, donc qui étaient portées par la MJC et la salle de la Face B. Voilà, avec donc là, bon, c'est en période de Covid, c'est pas évident, on est vraiment en année zéro, mais l'idée c'est ça, c'est de relancer une grosse dynamique autour des musiques actuelles de manière générale. Avec notre, voilà, notre énergie. Et puis notre
tout mélange confondu, il n'y a pas de cloisonnement.
Non, pas de cloisonnement, on va essayer de taper un peu toutes les musiques.
Tant mieux.